informations sur rts.ch.
Vacarme.
Si je prends l'exemple des disparitions forcées en Tchétchénie au début des années 2000, les familles des victimes qui sont disparues, d'abord elles ont essayé d'obtenir réparation et justice au niveau interne, mais en vain, les tribunaux n'ont rien fait. Et donc finalement, désespoir de cause, la famille, les veuves ou les filles viennent à Strasbourg. Et là, c'est la première fois que finalement il y a un tribunal sérieux qui examine les faits attentivement et qui conclut à une violation de l'article 2 qui consacre le droit à la vie. Donc c'est encore maintenant extrêmement utile pour énormément de pays.
Vacarme.
Peut-on se passer de la Cour européenne des droits de l'homme ?
Véronique Marty, Marc Jules.
Bonjour à tous et à chacune. Cette semaine dans Vacarme, on s'intéresse à la Cour européenne des droits de l'homme, une institution attaquée frontalement par l'UDC avec son initiative intitulée « Le droit suisse au lieu de juges étrangers ». Dans le reportage qui va suivre, on va rencontrer un homme qui a été entre 2007 et 2011 l'un des 300 juges de la Cour EDH. Mais ce magistrat professionnel passionné par les droits de l'homme n'est pas un étranger, puisqu'il est suisse, originaire du Tessin. Il s'appelle Giorgio Malinverni. Il a été choisi pour représenter la Suisse à la Cour de Strasbourg. Et vous allez l'entendre, il en est toujours très fier aujourd'hui. Mais cette haute juridiction européenne qui a été créée en 1959 pour être la gardienne de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, cette institution donc n'a-t-elle pas outrepassé sa mission d'origine ? Et les critiques de l'UDC, selon lesquelles elle empêcherait la Suisse d'exercer sa souveraineté dans le domaine judiciaire, ne sont-elles pas fondées ? Giorgio Malinverni va répondre sans détour à ces questions et à bien d'autres que le reporter de Vacarme va lui poser. Voici, dans la chambre du juge, un reportage de Christophe Canu, réalisé par Rodolphe Beauchaud.
Mon grand-père me racontait que quand il était jeune, il était dans le canton du Tessin, puis il a fait son apprentissage de peintre en bâtiment. Ses parents l'avaient envoyé à Beugnin, dans le canton de Vaud. Et pendant 4 ans, il n'est jamais retourné au Tessin. Et il est resté là, de l'âge de 13 jusqu'à 17 ou 18 ans, comme ça. Il avait d'ailleurs très bien appris français. Et déjà lui me disait qu'il l'avait traité une fois de sale italien. Et lui avait, en réaction, il avait pris un pinceau de peinture, il avait donné un coup de pinceau de peinture sur la veste de celui qui lui avait dit ça, il avait abîmé la peinture, et ensuite son père avait dû acheter une veste. Donc, vous voyez, déjà à l'époque, il y avait cette confusion entre Tessinois et Italien. Il disait, parce qu'il avait un nom italien, il disait, ça l'italien. Mais heureusement que ça n'existe plus. Le soleil vous gêne un peu, je peux descendre un peu le store. Hein, parce que, là, avec les vitres, ça fait un peu effet de serre. Moi, je suis originaire du canton du Tessin, même si je n'y ai jamais vécu, parce que je suis né en Italie, ensuite j'étais à Fribourg, et depuis maintenant plus de 50 ans à Genève. Mais on pourrait parler de tout ça, si vous le voulez bien, à l'étage où j'ai mon bureau, où j'ai transformé la chambre de l'une de mes filles en bureau.
Je vous suis.
Alors voilà, nous sommes dans mon bureau, avec la vue sur le jardin. Je me plais beaucoup dans ce bureau, j'y passe plusieurs heures par jour à lire et à travailler, parce que je publie encore... De temps en temps, je prépare des conférences, des participations à des colloques, à des congrès. Donc je passe beaucoup d'heures ici. C'est un lieu dans lequel je me plais beaucoup.
Il y a des photos.
Alors ça, ce sont des photos, oui, des juges.
Vous êtes où ?
Alors moi, je suis là.
Ah oui, on vous voit là, avec les lunettes sur la gauche.
Voilà, ouais.
Avec une belle robe noire.
Qui n'est pas noire, mais qui est bleu foncé. Oui, alors la robe est encore ici, vous voyez, je l'ai conservée. avec l'hermine ici.
Et puis sur le haut de l'épaule.
Et sur le haut de l'épaule, ça, ce sont les étoiles qui symbolisent l'Europe. Hein. C'est le même.
C'est le drapeau européen.
C'est le drapeau européen, finalement, qui est commun au Conseil de l'Europe et à l'Union européenne.
Et il y a votre nom.
Hein. Alors, il y a mon nom, oui, tout à fait. Voilà, ça a été cousu par-dessus pour pas qu'on les mélange. Voilà, c'est la robe que j'ai portée. On portait la robe seulement pour les audiences dans les affaires de grande chambre ou bien quand il y avait des circonstances particulières. Ouais. Et ça, c'est un cadeau qui m'a été offert au moment où j'ai pris ma retraite. C'est le bâtiment de la Cour européenne à Strasbourg.
C'est un dessin, en fait.
C'est un dessin, oui, c'est un dessin, tout à fait.
Je peux vous laisser lire ce qu'il y a écrit dessous, là ?
Alors là, c'est Giorgio Malinverni, juge de la Cour européenne des droits de l'homme, 19 janvier 2007, octobre 2011. C'est la durée de ma présence là-bas.
En fait, vous êtes resté 5 ans à la Cour à Strasbourg, oui, parce qu'il y a une limite d'âge.
J'aurais pu rester plus longtemps, mais malheureusement, oui, il y a une limite d'âge. Elle est fixée à 70 ans. Moi, j'ai été élu tard. Hein, j'ai été élu parce que le poste était occupé par mon prédécesseur. Donc, lui-même a pris sa retraite à 70 ans. Et c'est à ce moment-là que le poste s'est libéré. Il a été mis au concours. La procédure est assez longue et compliquée parce qu'il y a une phase interne. Il faut d'abord que les départements concernés à Berne, qui sont le département des affaires étrangères et le département de justice et police, mettent le poste au concours. Tout le monde peut poser sa candidature. Et finalement, chaque État doit établir une liste avec 3 personnes, 3 candidats. Donc je figurais sur cette liste avec 2 autres candidats. Et cette liste doit être approuvée par le Conseil fédéral. Là se termine la phase, disons, interne, si vous voulez, de la procédure d'élection. Ensuite, cette liste est envoyée à Strasbourg. Et là, c'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui élit sur cette liste avec 3 noms, qui élit le juge.
En ce qui concerne le tribunal fédéral, comment sont choisis les juges ?
Alors les juges au tribunal fédéral sont élus par le Parlement, les 2 chambres réunies, Conseil national et Conseil des États. Pour la Cour européenne, c'est aussi d'une certaine manière une élection, sauf qu'il n'y a pas pour la Cour européenne cette répartition, parce qu'en Suisse, il y a une répartition par parti des juges. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des juges qui sont élus parce qu'ils sont présentés par un parti politique, hein, donc un peu comme au Conseil fédéral. Il y a 2 conseillers fédéraux socialistes, ben il y a aussi un certain nombre de juges fédéraux qui appartiennent au parti socialiste, ou qui sont présentés en tout cas par un parti politique. Alors ça, c'est absent à Strasbourg, parce que ça serait difficile de faire ça. Il n'y a pas les mêmes partis dans les 47 États, donc elle est au-dessus des partis politiques.
Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous alliez siéger à la Cour européenne des droits de l'homme ?
J'ai sauté de joie. J'ai sauté de joie, j'étais extrêmement heureux. Surtout que je me suis toujours intéressé à la Convention européenne des droits de l'homme depuis que la Suisse l'avait ratifiée en 1974. J'avais publié passablement de textes, d'articles dans des revues scientifiques sur la Convention européenne des droits de l'homme. Je dispensais un enseignement à la faculté, un cours à option depuis 1980 jusqu'en 2006 sur la Convention. C'est une matière avec laquelle je m'étais identifié personnellement. Les droits de la personne humaine, le fait que l'on doit pouvoir dire ce que l'on pense, la liberté d'expression, qu'on ne peut pas emprisonner des personnes à tort, qu'on doit respecter les droits de la personne humaine. Alors c'est une grosse responsabilité, parce que c'est vrai qu'on condamne les États, mais on n'est pas seul à assumer cette responsabilité, on la partage avec des collègues.
Mais il y a quelque chose dans votre histoire familiale, personnelle ou sociale qui fait que vous ayez privilégié cette voie du droit de la personne ?
Alors, bon, d'abord le droit. Je dois vous dire que la médecine m'aurait aussi intéressé. Hein. Ça peut paraître paradoxal parce que c'est très différent, mais peut-être dans les 2 cas, il y a toujours ce d'être au service de l'autre. Et pour finir, j'ai opté pour le droit.
Convention européenne des droits de l'homme, article 9. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé.
Alors juste là, si on se tourne de l'autre côté, vous avez sur le mur deux diplômes.
Oui, ça ce sont deux doctorats honoris causa. Alors j'en ai reçu un en 2010 de l'université de Zurich. Puis l'année suivante, en 2011, j'en ai reçu un de l'université de Neuchâtel.
Vous pouvez lire ?
Alors là, c'est donc l'université de Neuchâtel sur la proposition de la faculté de droit. Confère par les présentes à M. Giorgio Malinverni, professeur honoraire de l'université de Genève et juge à la Cour européenne des droits de l'homme, pour son engagement en faveur des droits humains, de la démocratie et de la protection des minorités, ainsi que pour sa contribution à une meilleure prise en compte de la dimension internationale des droits humains par la Suisse, le grade de docteur en droit honoris causa.
En fait, si on se réfère à ça, pour devenir juge à la Cour européenne des droits de l'homme, il faut quand même être préoccupé par les droits humains.
Oui, bien sûr, ce sont toutes des personnes qui, la plupart en tout cas, avec quelques exceptions, surtout pour les pays de l'Est, là où il y avait peu de spécialistes des droits humains, pour des raisons historiques, mais normalement ce sont tous... Il y avait au fond une composition assez variée, c'était soit beaucoup de professeurs de faculté de droit... En ce qui concerne la Cour, voilà, ou bien aussi des juges de Cour suprême nationale, mais toujours aussi qui s'étaient intéressés aux problématiques des droits de l'homme, et parfois aussi des avocats qui ont défendu des causes sur les droits de l'homme aussi. Donc on était, je dirais, sur l'ensemble, sur les 47 juges, à peu près un tiers d'anciens professeurs d'université, un tiers de magistrats dans les cours suprêmes, et un tiers en gros qui était soit avocat, soit diplomate, hein, un peu un mélange. Mais qui est un mélange qui est heureux, qui donne de bons résultats.
Avec ce lien donc pour les minorités, avec cette préoccupation commune pour les minorités.
Alors pour certains d'entre nous, oui, pas tous, parce qu'il y en a certains qui viennent d'États où il n'y a pas vraiment de problème de minorité, donc ceux-là sont moins sensibles à la problématique de la protection des minorités. Le droit est un instrument, un ensemble de règles qui a pour but de protéger l'individu, hein, que ce soit le droit interne ou le droit international. Le droit pénal protège, hein, protège les victimes finalement de crimes ou de délits. Il y a ce rôle protecteur du droit pour les personnes qui sont dans des situations précaires ou dans des situations difficiles. Hein. Ça peut être des réfugiés, ça peut être les requérants d'asile, ça peut être les étrangers, ça peut être une autre minorité. C'est ça le rôle du droit. Et alors c'est le rôle de tout le droit, mais spécialement des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, de protéger la liberté d'expression, d'interdire la torture, les mauvais traitements, de protéger le droit à la vie, la liberté de s'assembler, de se réunir, de pratiquer sa propre religion. Tout ça, c'est le rôle protecteur du droit. Au fond, je pense que l'histoire de l'humanité, en tout cas ces dernières années, ces dernières décennies même, montre qu'on va toujours vers une meilleure protection des droits. Le fait que, par exemple, en Europe maintenant, on soit arrivé à faire de l'Europe un continent où la peine de mort a été complètement abolie, c'est un progrès indéniable. Hein.
Et qui est lié à la Cour européenne des droits de l'homme.
Et qui est lié à la Cour européenne et au Conseil de l'Europe, disons, parce que la Convention elle-même, quand elle a été adoptée en 1950, n'avait pas interdit la peine de mort, parce qu'elle était encore, à ce moment-là, elle existait dans plus de la moitié des États. Elle n'était pas pratiquée, mais ça existait dans les textes. Excusez-moi. Ciao Laetitia.
Article 14. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Ouais, ciao, ciao. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on disait déjà?
Oui.
Ah oui, voilà, la peine de mort, oui. Alors, donc, il a fallu attendre encore quelques années pour que la peine de mort soit interdite d'abord en temps de paix, et puis ensuite qu'elle soit interdite en tout temps.
Giorgio Malinverni, on se trouve toujours chez vous à Genève. On est plus précisément dans votre bureau, entouré par une ribambelle de livres consacrés au droit suisse et international. Aujourd'hui, on peut se dire, bah, écoutez, c'était il y a 70 ans. Mmh. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Alors, pourquoi continuer cette Cour européenne des droits de l'homme?
Ben, l'expérience montre qu'elle est encore extrêmement utile, hein, puisque sur les 1500 ou 1700 arrêts que la Cour rend chaque année, il y a plus d'arrêts dits de condamnation que des arrêts d'acquittement. C'est-à-dire qu'il arrive plus souvent que la Cour constate une violation de la Convention qu'une absence de violation. Encore aujourd'hui, donc ça varie beaucoup d'un État à l'autre, mais si je prends l'exemple des disparitions forcées en Tchétchénie, au début des années 2000, 2001, 2002, pendant la deuxième guerre de Tchétchénie. Et au fond, quand on rend ces arrêts, on s'aperçoit que les familles des victimes qui sont disparues obtiennent pour la première fois un premier jugement, parce que d'abord, elles ont essayé d'obtenir réparation et justice au niveau interne, mais en vain. Les tribunaux n'ont rien fait, les procureurs n'ont pas entamé de poursuite. Et donc, finalement, désespoir de cause, la famille, les veuves ou les filles viennent à Strasbourg. Et là, c'est la première fois que finalement il y a un tribunal sérieux qui examine les faits attentivement et qui conclut à une violation de l'article 2 qui consacre le droit à la vie. Donc c'est encore maintenant extrêmement utile pour énormément de pays. Voilà, j'ai classé dans ces quatre classeurs d'abord tous les arrêts concernant la Suisse auxquels j'ai participé.
Il y en a combien ?
Il y en a en tout, en moyenne, une dizaine par année. Oui. Et puis, j'ai aussi mis ici tous les arrêts de la Grande Chambre auxquels j'ai participé. Donc, comme il y en a une vingtaine par année, en 5 ans, ça fait une centaine. Quoi. Oui. Pour la Suisse, ce qui est frappant pour la Suisse, c'est que, contrairement à d'autres pays, où il y a plusieurs affaires qui sont un peu répétitives, c'est-à-dire que ce sont les mêmes problèmes qui se posent, et ceci est dû au fait aussi que les États ne respectent pas toujours bien les arrêts de la Cour, et au lieu de modifier leur législation, ils la maintiennent, et par conséquent, il y a d'autres recourants qui recourent contre les mêmes lois, et donc ça donne lieu à des affaires, comme on les appelle, répétitives. La Suisse n'est pas dans cette situation, donc chaque affaire est une affaire nouvelle qui pose des problèmes nouveaux, et ce sont des affaires extrêmement, du point de vue juridique, extrêmement complexes et difficiles, ce qui montre aussi que les instances inférieures, donc les instances suisses, font du très bon travail, puisque les affaires simples sont écartées. Une autre caractéristique des affaires pour la Suisse, c'est que, en dépit du fait que c'est un État qui n'a pas une population très importante, il y a énormément de jugements de grande chambre. Ça veut dire que ces affaires qui arrivent contre la Suisse sont complexes, sont difficiles, et c'est pour cette raison que, bien souvent, elles se terminent devant la grande chambre.
Mais pourquoi, finalement, la juridiction de Strasbourg serait plus crédible qu'une autre ?
Mais l'idée à la base de ça, c'est que on voulait absolument éviter que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale se reproduise, et qu'on a considéré qu'une protection des droits de l'homme purement nationale, opérée par les États, est insuffisante, et on a voulu instaurer un contrôle international, européen. Voilà. Et c'est vrai que quand j'étais là-bas, souvent, quand on discutait, surtout dans les chambres, nous étions 7, avec des juges qui venaient de pays très différents et qui disaient « mais dans mon pays, c'est comme ça ». Et puis on disait « mais dans mon pays, c'est comme ça ». Donc c'est souvent de la comparaison des solutions données par les différents pays à un problème donné que finalement on trouvait la solution.
Finalement, on a l'impression que le droit, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Voilà, c'est écrit dans un livre, c'est comme ça. En fait, on voit bien que ça prête matière à interprétation, qu'on a beau être juge,
Il y a toujours une certaine subjectivité dans l'interprétation.
Bien sûr, vous avez raison. Hein. Souvent, d'ailleurs, on entend dire « Ah, mais le droit, c'est ennuyeux, il faut apprendre par cœur des lois, il faut apprendre par cœur le code civil ou le code pénal. » Ce qui est absolument faux. Les lois sont écrites, on a un texte, c'est vrai, mais ces textes-là sont sujets à interprétation. L'article 10 de la Convention européenne dit simplement « La liberté d'expression est garantie ». Ben voilà. Après, il y a la suite de l'article qui dit à quelles conditions on peut restreindre la liberté d'expression. Mais finalement, est-ce que dans un certain cas concret, la liberté d'expression doit être toujours protégée ou pas ? Est-ce qu'on a le droit, au nom de la liberté d'expression, de produire, par exemple, des films pornographiques ? Jusqu'où ça va, hein ? C'est ça qui est, c'est tout le problème, au fond, des droits, c'est de savoir quelle est exactement leur portée, jusqu'où ça va, et comment peut-on les délimiter ou les limiter ou les restreindre. Et le travail du juge consiste précisément face à un texte qui consacre une liberté, un droit fondamental, et dans un cas concret de dire oui, cet article s'applique ou bien il ne s'applique pas, ou bien il s'applique mais on peut le restreindre. Et finalement, le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un texte extrêmement court. Hein. Il comprend un catalogue de 18 articles. Mais sur la base de ça, la Cour a échafaudé une jurisprudence qui est un véritable monument, hein, mais par voie d'interprétation, justement. Alors c'est clair que lorsqu'un arrêt est rendu à l'unanimité, il a beaucoup plus de force, parce qu'on dit tous les juges étaient unanimes. Lorsqu'il est rendu à une courte majorité de 10 juges contre 7, c'est clair que l'arrêt a une force moins importante et moins persuasive. Pour la Grande Chambre, ça arrive très souvent que la Grande Chambre soit divisée, hein, et même parfois 9 juges contre 8. Donc là, c'est vraiment un juge qui fait la différence. Mais c'est quelque chose qui arrive dans tous les tribunaux. Hein. Je me rappelle que le tribunal fédéral, lorsqu'il a dû statuer sur l'affaire de la présence des crucifix dans les écoles dans le canton du Tessin, et il y avait un instituteur qui trouvait que lui-même étant athée, ne voulait pas qu'il y ait des crucifix dans la salle de classe. Le tribunal fédéral était aussi divisé. Et il avait pris la décision par 3 juges contre 2. Oui. Sur toutes ces affaires-là, qui sont des affaires, disons, de société, qui posent des problèmes, par exemple, aussi sur le mariage homosexuel, ce genre de choses, où il y a des valeurs qui sont en cause, les juges sont souvent divisés.
Article 6. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
C'est moins souvent le cas quand l'article de la Convention qui est invoqué n'est pas un article sur la liberté religieuse ou la liberté d'expression, mais plutôt sur l'administration de la justice. Est-ce qu'il y a eu là un procès équitable ou pas ? Alors là, les juges sont plus souvent unanimes, ou bien lorsque on est en présence de violations des droits de l'homme, comme l'interdiction de la torture, l'interdiction des mauvais traitements, là c'est beaucoup plus facile qu'il y ait unanimité. Ça arrive plus souvent qu'il y ait unanimité entre les juges, parce que c'est plus facile de constater qu'effectivement il y a eu un mauvais traitement, qu'une personne a été maltraitée, qu'elle a été torturée, etc.
Comment vous avez réagi alors quand vous avez appris que l'UDC lançait une initiative, le droit suisse au lieu des juges étrangers ?
Si cette initiative devait être acceptée et devenir un article de la Constitution, à ce moment-là, ça remettrait en cause toutes les relations internationales de la Suisse. Non seulement la Convention européenne des droits de l'homme, parce que je crois que la portée de cette initiative est beaucoup plus large. Elle ne vise pas que la Convention européenne des droits de l'homme, elle vise l'ensemble des traités internationaux qui pourraient se révéler être contraires au droit suisse. C'est-à-dire que le juge suisse, lorsqu'il y a un conflit entre un traité international et le droit interne, devrait privilégier le droit interne et appliquer le droit interne. Je crois que l'UDC en veut aux juges et au pouvoir des juges en général. Et pas seulement aux juges qu'elle appelle étrangers, qui sont les juges de Strasbourg. Parce que juges étrangers, n'est-ce pas, quand le tribunal fédéral juge une affaire, qui concerne, mettons, le canton de Vaud. Dans la composition du tribunal fédéral qui juge cette affaire, il y a peut-être des juges dont aucun n'est vaudois. Et on ne dit pas, mais ce sont des juges étrangers. Et pourtant, du point de vue cantonal, ils sont étrangers. Et alors là, je ne comprends pas pourquoi, alors, quand il s'agit de monter d'un échelon, de passer de l'État au niveau international, on dit que ce sont des juges étrangers. L'UDC a été très critique envers le tribunal fédéral aussi. Quand le tribunal fédéral a rendu des jugements sur, par exemple, la naturalisation par les urnes dans le canton de Lucerne, vous vous rappelez, et que le tribunal fédéral a considéré que ce mode de naturalisation par les urnes était contraire au droit supérieur suisse. Hein. Et là, l'UDC, parce que l'UDC pense que tout ce que le peuple décide ne doit pas être mis en question.
D'accord.
Et moi, je pense que le peuple peut aussi se tromper. Les juges aussi peuvent se tromper, bien sûr, ils peuvent se tromper. Mais le peuple aussi. Il ne faut pas croire que tout ce que le peuple décide est sacré.
Les propos de Giorgio Malinverni vous ont dérangé ou emballé, vous allez pouvoir y réagir sur le répondeur de l'émission. C'est à vous maintenant de prendre la parole. En Suisse, la justice doit-elle être rendue de façon totalement autonome, sans être influencée par quelque traité ou institution internationale que ce soit ? Ou pensez-vous au contraire que le peuple suisse et sa justice ne sont pas infaillibles et que la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que la Cour de Strasbourg sont des garde-fous et des aiguillons nécessaires? Dans les deux cas, votre opinion et vos arguments nous intéressent. Faites-nous les partager au 058 236 236 0.
Vacarme, Véronique Marty, Marc Jouz, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Christophe Canu, Rodolphe Beauchamp.
Demain, nous retracerons deux affaires que des justiciables suisses ont portées devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Un épisode dans lequel nous entendrons, entre autres, l'avocat zurichois David Ousmann.
Il faut voir d'où vient cette Cour européenne. Elle a été créée, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les horreurs liées au nazisme. Et effectivement, d'un point de vue purement juridique, l'Allemagne était souveraine et avait juridiquement le droit d'exterminer les Juifs. Et c'est pour ça que cette Cour a été créée, pour dire non, un État n'a pas forcément raison. Même si un État est souverain chez lui, il peut quand même prendre des décisions moralement fausses. Et c'est en cela que la Cour européenne est légitime.
En dernière instance, ce sera le reportage de Vacarme. Demain, là tout de suite, quel sera donc le premier son de passagère ?
Une heure et demie.
Passagère. Émilie Gasque.
Salut. Passagère pour cette quatrième saison est toujours heureuse de dénicher encore de rares pépites, des titres d'artistes qui n'ont pas percé et qui pourtant sont méritants, comme Pierre Guimard, dont nous écouterons Je m'arrête à toi, ou Benoît Dorémus, qui prépare un nouvel album pour 2016, même s'il écrit faux et chante de la main gauche.
Passagère.
Rapport à comment j'écris, rapport à comment je chante, rapport à mon envie de faire que ça grandissante, rapport à tous les mots qui sortent et qui se jettent dans mon micro sur 21-29-7. Y'a un truc à savoir, avant d'aller plus loin, je prends deux minutes pour insister sur ce point. C'est pas pour faire le coq, mais je voudrais faire taire ceux qui voudraient déjà me faire des commentaires. Ce que j'écris, ça regarde que moi. J'aime trop les taches que ça laisse sur les doigts. Ce que je chante, que personne n'y touche. J'aime trop le goût que ça laisse dans la bouche. Les mots qui sortent et les mots qui rentrent. J'aime trop la douleur que ça laisse dans le ventre. Mon style, pour pas qu'on me le fauche. J'écris faux, je chante de la main gauche. jour où le monde me revient qu'à moitié, je me réfugie sur une feuille de papier. D'autres jours où il est un peu trop grand pour moi, j'ai un micro pas mal pour amplifier ma voix, la gratte autour du